courte critique par le Père Marie-Dominique Philippe, le 18 mai 2001 à Saint-Jodard.
La critique est particulièrement difficile, surtout pour les premières années, pour les secondes années aussi. Pour les troisièmes, ça doit aller. Parce que on ne fait jamais ça en philosophie. Et en scolastique, on ne le faisait pas non plus. Mais c'est pourtant très utile et nécessaire. Au moins savoir que ça existe. Et que ça peut exister et peut se faire. Et on va essayer de comprendre comment le jugement de sagesse que nous essayons de faire ensemble, essayer de le couper, au point de vue réflexion critique. Quelle intelligibilité nouvelle a-t-on de laisser dans un jugement de sagesse ? Quelle intelligibilité nouvelle a-t-on de la différence de l'être et de la vie dans un jugement de sagesse ? Est-ce que c'est uniquement quelque chose qui est d'ordre agréable, intéressant pour ceux qui font une théologie naturelle, ou est-ce que c'est important pour mon intelligence qui veut aller le plus loin possible dans la recherche de la vérité? Qu'est-ce que cela existe et comment cela se fait-il? Je vous ai dit, le jugement de sagesse ne peut se faire qu'après avoir découvert l'existence de Dieu. Après avoir essayé de voir ce qu'est, autant que je puis le dire, en métaphysique, en sagesse humaine, comment l'être premier que nous appelons Dieu, nous n'avons pas de jugement sur Dieu, nous n'avons pas de concept sur Dieu, nous n'avons qu'un jugement. Alors vous voyez, nous parlons quand même, nous disons Dieu est tout-puissant. En Dieu, il n'y a pas de distinction entre essence et existence. En Dieu, il n'y a pas de distinction entre son être et sa vie. En Dieu, l'intelligence même s'identifie à son être. Je peux voir et saisir tous les comportements particuliers de l'existence de l'être premier. Mais je n'ai pas de concept de l'être premier, si ce n'est qu'il existe. Vous voyez, je me sers de Dieu comme d'un nom dans un jugement. Dieu existe. Il est nécessaire que l'être premier, qu'il y ait un être premier. Il est nécessaire qu'il y ait un être premier. Et quand je dis il est nécessaire qu'il y ait un être premier, j'ai donc possibilité de me servir de ce nom, de cet être premier, que je considère comme le Dieu des traditions religieuses, du Dieu créateur. Et je peux affirmer que la relation entre mon être et cet être premier exige d'opposer la création. Et je peux, à ce moment-là, préciser ce qu'est ce lien qui existe entre Dieu créateur et moi-même. Un lien qui est justement cette relation particulière en moi d'être celui qui reçoit tout son être de Dieu, à partir de Dieu, ex nihilo, à partir de rien. La création est donc un don généreux, absolument gracieux, de Dieu, au-dessus de toute justice. C'est moi-même qui, ayant tout reçu de Dieu, dois le remercier. Et l'acte d'adoration, c'est un acte de remerciement, d'action de grâce à l'égard de Dieu, à l'égard toujours de cet être premier dont il est nécessaire de poser l'existence, en qui l'existence est nécessaire. Aucune réalité que j'expérimente, l'existence est nécessaire, elle est toujours contingente. Tous les êtres que je connais sont dans le devenir. Ils ont eu un commencement et ils auront une fin. Tous. Notre monde physique est dans le devenir. Il change tout le temps. On s'en aperçoit. Des choses qui paraissaient très fixes, même celles-là peuvent changer. Les saisons, ça change. Vous voyez qu'il y ait un nom pour dire Dieu est ceci, et nécessairement ceci, ça n'exige pas de concept nouveau. J'ai le concept d'être, et j'ai le concept d'être selon ses modalités, et j'ai ce concept d'être qui me permet de poser un être premier, souverain, créateur, et il est nécessaire qu'en lui, l'existence soit nécessaire. C'est-à-dire qu'en lui, ce qu'il est et son existence ne font qu'un. Il est absolument simple. La simplicité de Dieu est un jugement que la théologie naturelle peut poser. Il y a quelque chose de particulier quand Saint Thomas fait cette recherche en théologien. Il affirme en théologien, théologie scientifique, que le premier jugement du théologien de théologie scientifique, c'est de dire Dieu est absolument simple. Vous savez que tout ce que saint Thomas dit sur Dieu, le philosophe en théologie naturelle, peut le dire. Que Dieu est une intelligence subsistance, que la vie de Dieu, c'est la contemplation de ce qu'il est. Je peux dire cela. Et tout ça n'exige pas de nouveaux concepts de Dieu, mais un nouveau jugement. Et le jugement de foi est différent que le jugement philosophique. Parce que le jugement philosophique sur Dieu repose sur la découverte démonstrative a posteriori que je fais. L'existence de Dieu m'est donnée comme une conclusion. D'un raisonnement, d'une démonstration a posteriori. Tandis que le jugement de foi m'est immédiatement donné, sans démonstration. J'affirme, Dieu existe, parce qu'il m'a parlé. L'existence de Dieu est impliquée dans l'acte de foi. Et je saisis Dieu dans son être particulier de Dieu. Je n'ai pas de concept de Dieu. Je sais qu'il dépasse toutes mes conceptions. Mais je juge immédiatement qu'il est dans la totale obscurité. Vous voyez la très grosse différence, hein ? Jugement d'existence au terme d'une démonstration a posteriori. Tandis que de l'autre côté, affirmation immédiate que Dieu existe. C'est l'autorité de Dieu qui me permet de juger, parce que Dieu a parlé. Et que Dieu a parlé, j'en suis certain par ma foi et dans ma foi. Et parce que Dieu a parlé, il existe. C'est ce qui me fait dire que la parole de Dieu est une parole vivante. Parce que toujours, dans ma foi, je saisis toutes les paroles de Dieu comme des paroles vivantes. Et on pourrait dire que au point de vue philosophique, je saisis Dieu comme créateur. Et je peux dire que ce créateur est père de mon âme. Tandis que le jugement de la foi, c'est Dieu comme ami qui me parle. Il me parle comme un père ami. Oui. C'est une comparaison qu'on peut faire. Quand vous regardez une exposition de tableaux, vous devinez par les tableaux ce que doit être l'artiste. Et puis on vous dit, l'artiste est encore vivant, attendez, vous allez pouvoir le voir. Et vous en êtes très content. Autre chose est connaître l'artiste qui me parle. Évidemment, là je vois, mais je pourrais très bien ne pas le voir. Il pourrait très bien uniquement entendre sa voix. Me parlait. j'ai deux connaissances très différentes. C'est une analogie, hein, c'est très différent, mais il y a quelque chose de commun. On connaît Dieu comme créateur et comme père, et on connaît Dieu comme père ami. On peut connaître le Père uniquement parce qu'il m'a donné l'intelligence. Et je suis capable de le rejoindre. Et je suis capable, s'il le veut, de devenir son ami. Puissance obédientielle. Je suis capable de recevoir la grâce et d'être l'ami de Dieu. La foi me permet d'adhérer au Père ami qui me parle. Il y a donc deux types de connaissances très différents, qui ne se contredisent pas du tout, mais qui ont une profondeur toute différente. La profondeur de la foi me conduit normalement à la vision béatifique. Tandis que la profondeur de la connaissance philosophique sur Dieu me conduit à la recherche de la vérité absolue. Je désire connaître la vérité première et j'affirme que Dieu existe et que même si ma connaissance de Dieu reste analogique, très partielle, tout ce que je peux connaître de Dieu philosophiquement est plus riche pour mon intelligence que toutes les autres connaissances. Bien que ma connaissance conceptuelle est obligée de s'arrêter devant Dieu. Mais j'affirme qu'il existe. J'affirme qu'il est présent. Et cette présence est quand même quelque chose de très grand. Et je peux à ce moment-là souhaiter qu'il me parle. Ce serait tellement merveilleux. Mais je ne peux pas l'exiger. Je ne peux pas y atteindre par moi-même. Je ne peux qu'affirmer qu'il est présent. Tandis que la foi me permet de regarder Dieu qui me parle dans la totale obscurité. Mais il me parle. Et j'entends sa voix. Jésus dit que celui qui naît de nouveau entend la voix du vent, du souffle. Il entend sa voix. Alors, puisque j'affirme cette présence de Dieu, puisque j'affirme qu'il y a un jugement qui me permet de dire Dieu est souverainement simple. Dieu est intelligent. Dieu est sagesse. Et quand je le compare à moi, à la créature, à moi comme créature, je peux dire dans toute créature, il y a une distinction entre la vie et l'être. Dans toute créature, il y a distinction entre devenir et être. Toutes les distinctions que nous ferons dans un jugement de sagesse, nous pouvons affirmer qu'elles existent en moi. Ma vie n'est pas ma substance. Bien que mon âme, principe de vie, soit ma substance, elle n'est pas, d'une façon absolue, source de mon être. Mais elle est source de ma vie. Voilà la grosse différence. Très souvent, on n'accepte pas l'âme parce qu'on croit que l'âme est source d'être. Non, elle est source de ma vie. Alors, quand je pose ce jugement de sagesse en Dieu, être et vie ne font qu'un. En toute créature, aussi bien s'il existe des anges que dans l'homme, il y a une distinction d'être et de vie. Et Dieu peut créer des êtres qui ne sont pas vivants. Ça me confirme bien qu'en toute créature, l'être et la vie sont distincts. Même si en moi, les deux s'identifient, ils ne se confondent pas. Ils restent toujours distincts. Et tous les soirs, quand je m'endors, je m'en aperçois. Juste avant de dormir, pas dans le sommeil, sauf si vous faites des rêves métaphysiques. Et si vous faites des rêves de penser au cours, ça va arriver. Ça. Et vous dites, maintenant je dors, je suis. Je vis d'une façon très particulière, et je vis parce que je suis. Quand vous faites ce jugement-là, jugement de sagesse, en toute créature, il y a une distinction réelle entre être et vie. En toute créature, il y a une distinction réelle entre être et devenir. Vous faites ce jugement à partir du non-Dieu, de l'être divin, de l'être premier, mon Créateur et mon Père. Vous faites cette distinction-là. Pourquoi ? Parce que vous voyez que toute créature ne peut pas être comme le Créateur. Du fait même qu'il est créé, il est distinct de lui. Il a un être participé, créé. Et dans cet être limité, il ne peut pas y avoir identification entre être et vie. Mais il est déjà assez parfait comme être pour être un être vivant. Et je pourrais à ce moment-là distinguer quelle différence y a-t-il dans une lumière de sagesse entre un être et un être vivant. Et je dirais que l'être vivant est capable de se mouvoir. L'être non vivant est purement passif à l'égard du mouvement. Et à l'égard de tout mouvement. Et passif dans son devenir. Tandis que l'être vivant n'est plus passif dans son devenir. Il y a un changement très grand entre le devenir de l'être et le devenir du vivant. Je fais ça dans la lumière de ce nom Dieu, être premier, dont je vois que son jugement est très différent parce que c'est le jugement à l'égard de l'être premier. Et en lui, il n'y a pas de distinction, tout est simple. Donc, en raison de sa simplicité, de son infini, je peux dire qu'en toute créature, il y a une distinction entre être et vie. Je fais cette distinction, cette affirmation, dans la lumière même de l'être premier, de l'être divin, de l'être de Dieu. Je crois que là, nous saisissons que je n'ai pas un nouveau concept de l'être, un nouveau concept de la vie, un nouveau concept du devenir. J'ai acquis cette connaissance avant, dans l'analyse, la partie scientifique de la métaphysique. Puisque toute ma métaphysique repose sur le jugement d'existence. Et dans le jugement d'existence, j'ai dit « ceci est ». Et j'ai saisi la différence antérieurement entre le jugement « ceci est » et « je suis ». Vous ne pouvez pas identifier le « je suis » et le jugement d'existence. Mais le « je suis » présuppose le jugement d'existence. Et donc vous avez ce qui est premier en philosophie, ce jugement d'existence. Ce jugement d'existence, vous l'avez acquis. Non seulement dans un jugement propre, mais aussi dans une conceptualisation de plus en plus parfaite de l'être, du concept d'être. Mais je n'ai pas de concept de Dieu. Et je n'ai pas un nouveau concept de l'être, puisqu'il n'y a pas de concept de Dieu. Il y a un nouveau jugement sur l'être. Donc, la distinction que je fais entre être et vie ne m'apporte aucun nouveau concept, mais uniquement un nouveau jugement que je puis faire en confrontant le jugement que j'ai sur Dieu, être premier, et le jugement que j'ai sur les vivants et moi-même. Vous voyez que ce n'est pas au niveau conceptuel que je puis faire ces distinctions, mais au niveau du jugement. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Le jugement de sagesse, voyez, porte sur les états différents, les aspects différents d'exister. Et donc, sur les manières différentes d'exister. Et je n'ai pas de nouveau concept d'être. Et c'est pour ça que ce jugement de sagesse présuppose toute l'analyse métaphysique antérieure. Si je n'ai pas cette analyse métaphysique antérieure, mon jugement d'existence risque tout le temps de vouloir dire autre chose et par le fait même de prétendre au niveau conceptuel des choses inadéquates. Si je n'ai pas ce jugement de sagesse très net entre être, la distinction de être et de vie, je vais toujours risquer de les confondre. Si je n'ai pas le jugement de sagesse très distinct entre être et devenir, je risquerai toujours d'affirmer le devenir sans affirmer l'être, ou de séparer l'être du devenir par Ménide. Et Platon, voyez, le manque de distinction entre être et devenir. Et ce manque de distinction provient parce qu'il n'y a pas eu de jugement de sagesse. Le manque de distinction entre être et devenir peut engendrer deux confusions. La confusion de tout mettre dans le devenir, ou la confusion de tout mettre dans l'être. Alors que la distinction de sagesse, de être et devenir, me montre que cette distinction est absolument nécessaire dans tous les êtres créés. Distinction très fondamentale. Elle n'est pas première, mais elle est fondamentale. Et elle peut se faire que dans le point de vue de jugement, pour voir des états différents. Puisque le jugement présuppose toujours l'état. Le commodo. Voyez qu'à ce moment-là, on voit que cette recherche du jugement de sagesse est très bonne pour bien comprendre l'intérêt de la métaphysique. Et cet intérêt de la métaphysique prend toute sa splendeur dans le jugement d'existence, dans le jugement de sagesse, je veux dire. Et ce jugement de sagesse éclaire ce que mon jugement d'existence peut dire, et comment il peut le dire, par le dépassement du devenir, par ce dépassement constant du devenir, et que ce dépassement du devenir est difficile, quelquefois, à se faire, quand ce devenir devient le devenir humain. Le désir de ma vie, mon histoire. Et on risque toujours de considérer mon histoire comme étant quelque chose de plus intéressant que mon être actuel. Mon histoire, je peux la raconter. Les Grecs disaient, on la raconte le soir, tout près d'un feu de bois, et on la raconte en famille. C'est le contexte le plus charmant pour raconter l'histoire. Tandis que l'être ne se situe pas dans ce contexte. Il n'en a pas. Et l'intelligence est toujours toute seule avec l'être. Et l'être, il est le crapaud, il est vous. En voyant la différence entre le crapaud et vous, l'être vous intéresse, mais le voisin, il dira, j'aime mieux que tu me racontes ton histoire. Vous êtes comme ça. Et vous voyez pas qu'en disant ça, vous faites une injure terrible à l'être. Parce que vous considérez que l'histoire de votre voisin est plus intéressante que son être, ce qui est faux. Parce que s'il n'existait pas, son histoire n'existerait pas. Il existe, son histoire est intéressante parce qu'il est. Et qui, étant donné qu'il est, vous pouvez raconter son histoire.